Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est dans une journée très spéciale. C'est une journée de Trois Tammuz. C'est le jour où, il y a 30 ans, le rabbi nous a quittés. Le rabbi de Lubavitch nous a quittés physiquement, mais il est devenu, et son influence est devenue beaucoup plus grande de jour en jour, jusqu'à aujourd'hui, où il y a beaucoup, beaucoup de gens, on peut dire que quelque part, par l'idée des boules de neige, tout le monde sont influencés par lui. Et on va essayer de développer quelques idées autour de ce que c'est un rabbi. Qu'est-ce qu'il y a des tzadikim, il y a des justes, il y a des sages. Mais là, tout est réuni dans une personne, d'une part. Mais quand même, il y a, en plus de ça, il y a la notion d'un rabbi. Qu'est-ce que c'est un rabbi? Alors, en plus du fait qu'il y a un rabbin, des raves, il y a ce nom de rabbi qu'on peut utiliser pour d'autres choses, quelque part à un niveau plus élevé d'un rave. Mais il y a, comme parfois on dit, que Rabbi, c'est l'initiale de Moroche Bnei Israël, c'est lui qui se trouve à la tête des peuples d'Israël. Alors chaque génération, comme il est marqué dans la Kabbale et dans les Zohar, il est marqué que chaque génération, il y a un qui est à la tête des peuples d'Israël. Mais depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, mais il y a quand même des différentes manières, parce que chaque génération est différente, chaque période est différente, et c'est pour ça que chaque Moshe de la génération est différent. Mais tous, ils ont la même idée, que comme Moshe, le premier Moshe, il était un intermédiaire entre Dieu et le peuple pour leur passer le message de Dieu, ce que Dieu il veut. Chez Moshe, c'était la sortie de l'Égypte. Il a passé le message, il a donné la Torah, donc la Torah a passé par Moshe. Et aussi, ensuite, dans les différentes générations, que chaque génération, selon la vision de la Torah, ce n'est pas seulement encore une période, chaque génération, on a un rôle différent, et donc on a des épreuves différentes. Et là, on a un personnage qui peut, qui doit, qui peut, qui nous amène la réflexion nécessaire, ou bien il nous donne la solution nécessaire pour notre génération. Et c'est aussi une notion d'intermédiaire entre Dieu et nous. Mais pour ne pas être très long et pour dire les choses un petit peu d'une façon assez ponctuelle, notre génération aussi, on a mérité sorte de Moshe, quelqu'un qui sait nous guider, de nous dire ce qu'il faut faire dans des moments très difficiles. Alors, c'est vrai qu'il y avait des périodes où ce Moshe n'était pas aussi visible que ça, et il a réagi plutôt au niveau spirituel, comme il est marqué dans les livres, mais ou bien d'une manière ou d'une autre manière, mais depuis le Baal Shem Tov, on a trouvé et des personnages qui ressemblent à Moshe à leur génération, et que des personnes qu'on savait, qu'on a pu dire, demander leur avis par rapport à ce qu'il faut faire, et c'était une notion prophétique, comme on connaît beaucoup des histoires de Baal Shem Tov, aussi des rabbins de Chabad dans leur génération, et surtout chez le rabbi, qu'on a beaucoup vu cette notion de dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'était une vraie prophétie, même si qu'il a caché cet aspect dans plusieurs domaines, et dans la majorité des domaines, mais il y a des cas où il est sorti d'une façon claire, comme des moments très spéciaux dans l'histoire de notre génération. Et comme au moment, ce qui est le plus tardif, c'était la période de la guerre de Golfe, dans l'année 80, 91, où le monde faisait beaucoup de soucis, 90, 91, où le monde faisait des soucis, et surtout Israël a fait beaucoup de soucis, par les menaces d'Irak et Saddam Hussein, et qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il est capable de faire, et il voulait vraiment détruire Israël et ses habitants. Et à ce moment-là, le dirigeant était en panique, comme on le sait, et le rabbi il a assuré qu'il n'y aura rien de mal qui va arriver. Donc ça veut dire, plutôt il a dit qu'il ne faut pas avoir peur, et que la terre d'Israël elle est gardée par Dieu, comme il disait à l'époque. Et donc, à ce moment-là, il a encouragé les gens de rester en Israël, et de, même certaines personnes d'aller en Israël à cette époque, et parce qu'il a dit qu'il n'y aura rien qui va se passer, donc rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque humain. En fait, il n'a pas dit les choses de telle manière, mais en tout cas, il a assuré qu'on peut être tranquille. Et donc, il a conseillé, ça c'est une responsabilité d'une personne, de dire, on peut dire, vous pouvez être, soyez positif, soyez optimiste. Mais on voyait des gens dire « Non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien. » Et le rabbi, on sait qu'il est très responsable. Donc, on a vu chez le rabbi, effectivement, il y avait des bombes qui tombaient. Personne n'a su leur capacité d'Irak. Et finalement, il y avait des bombes qui tombaient. Ce n'était pas des bombes biologiques comme on a pensé, qu'on a eu peur. Mais c'était des bombes quand même. Et pourtant, il y avait des vrais miracles à cette époque où il y avait 39 bombes qui tombaient sur des habitations israéliennes, et parfois ça touchait carrément des habitations. Les habitations étaient détruites et les gens ils ont sorti comme si rien n'était, et comme on sait dans cette période. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, comme au moment de la guerre de six jours, comme au moment de la guerre de Kippour, dans certains domaines c'était différent, comme beaucoup d'autres choses que les gens que les gens ils ont demandé au rabbi quoi faire, ou faire comme ci ou faire comme ça, et parfois le rabbi il a répondu d'une façon très claire, faire une opération, ne pas faire une opération, il y a d'autres choix, mais parfois le rabbi il expliquait qu'il faut réagir de telle manière ou de demander à telle personne, ou mais on a vu aussi, parce que dans la vie, et il y a parfois on voit la main de Dieu qui intervient d'une façon claire, et parfois il attend que l'homme il participe. Donc ça c'est d'une façon générale ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'il y a un homme qui est intermédiaire entre Dieu et le monde, entre Dieu et le peuple juif, quand il s'agit de quelque chose qu'il faut savoir ce qu'il faut faire dans notre génération. Effectivement, on a vu aussi chez le rabbi qu'il était dans cette période après Shoah, qu'à ce moment-là, le monde était perdu, le monde juif surtout était perdu, on ne savait pas comment réagir. À ce moment-là, le rabbi il a refait naissance du judaïsme. Et comme j'ai entendu une image ces jours par... que la Torah nous dit qu'après les révoltes de Korach dans la parasha de la semaine dernière, Dieu il a demandé à chaque tribu de donner leur bâton qu'il pose pour la nuit dans le Saint des Saints, et que le lendemain, il vérifie, et chaque il va prendre son bâton, et c'est lui qui, donc, de chaque dirigeant des tribus, c'est lui qui sont bâton va fleurir, ça veut dire que c'est lui qui est le dirigeant, comme il marque dans la Torah, et on demande quel rapport entre les deux. Et la réponse, c'est qu'un vrai dirigeant, en fait, ça c'est une belle réponse que j'ai entendue cette semaine, je ne connais pas la source, mais en tout cas ça m'a plu. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait faire fleurir des déserts, faire fleurir là où il fait sec, il faut sec, comme ces bâtons qui est sec, donc normalement il n'y a rien de bon qui sort de lui, et il fait fleurir. Et ça, on a vu le rabbi qui nous il a fait fleurir le judaïsme de notre génération et aussi dans beaucoup d'autres domaines. Mais il y a encore quelque chose de très fort, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, des dirigeants, il y avait dans les différentes générations, Mais il y a parfois des dirigeants qui sont plutôt du côté divin. Ils comprennent ce que, et ils savent ce que Dieu il nous dit. Et ils passent le message. Mais ils ont moins le côté humain, si on peut dire comme ça. Et chez Moshe, il est marqué qu'il était Ish Elohim, l'homme divin. L'homme divin, donc, parmi les explications, c'est que d'une part, il est humain, d'une autre part, il est divin. Pour prendre un exemple, il y a aujourd'hui, on est dans l'éducation, et dans l'éducation, il y a bien chaque maître, il a son objectif, ce qu'il veut voir de ses élèves, c'est à qui qu'il attend de ses élèves. Mais il y a des élèves, donc parmi les élèves, il y a chacun selon son niveau, et chacun selon ses capacités. Alors, un bon maître, c'est quelqu'un qui, d'une part, il a un objectif, il veut amener ses élèves à tel niveau, mais d'une autre part, il connaît la capacité et la limite de chacun de ses élèves, et donc, il sait comment intégrer les grandes idées dans chacun selon son niveau. Et ça, on a trouvé chez Moshe. Il y a cette histoire que avant que Dieu l'a choisi comme guide du peuple d'Israël, il a vu comment il s'occupe de ses brebis, il était berger, et donc il a vu comment il savait, il a compris les besoins de l'un et de l'autre, des grands et des petits, et donc il a dit, moi j'ai besoin de toi comme un guide, comme on voit dans la Torah, que Moshe il a compris l'esprit des grands et l'esprit des petits. Donc parfois, il y a des petits qui ils ont des petits esprits, ou bien des petits au niveau d'âge, ou petits au niveau intellectuel, ou bien d'autres domaines. Et pourtant, le guide, il doit savoir s'abaisser vers eux et le comprendre, parce que finalement, lorsque Dieu il a donné à chacun ses capacités, c'est selon ça qu'il faut agir. Et voilà une petite histoire que je me rappelle de cette personne. C'était un entraîneur américain dans la Californie, dans les années, les premières années de 80 ou les dernières années de, en fait, dans les années 70 ou même en début des 80. Donc, c'est un monsieur, il était un juif, mais pas pratiquant du tout. Il ne savait pas grand-chose sur le judaïsme. C'était déjà quelques générations en Amérique. Donc, il a travaillé comme un entraîneur. Un bon jour, il avait un souci médical très très grave, à tel point que les médecins, en tout cas, ils ont été un petit peu désespérés de lui. Et comme beaucoup racontent des expériences qu'on trouve un petit peu à droite à gauche, que les gens, ils voient comment ils montent là-haut, et comment bien ils ont inspiré par une lumière, ces témoignages qui se répètent. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a certains scientifiques qui ne sont pas d'accord avec cette idée, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Il explique d'une certaine manière, mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages de mêmes personnes. En tout cas, lui, il voit comment il monte là-haut. Et là-bas, d'un coup, il se trouve devant un juge, des juges. Et le juge, ce qu'il a fait dans le monde, est-ce qu'il mérite de retourner ou non? Normalement, ils ont dit que ça y est, il a terminé son travail dans ce monde. De toute façon, il n'a pas fait grand-chose. Et là, ils disent, mais on va voir ce que le rabbi de Lubavitch dit. Et donc, le rabbi, il dit, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose dans sa vie, mais parce qu'il ne savait pas. S'il va descendre à nouveau sur terre, moi je prends une responsabilité sur lui. Donc finalement, ce monsieur s'est réveillé, il a tout oublié. Jusque le jour où il a passé, il s'est remis, il a oublié de toutes ses idées, et jusque le jour où il a traversé dans une zone où il y a ce qui s'appelle les tongs de Chabad, les tongs de mitzvot, les tongs de bons actes. De Chabad, qu'il tourne dans les grandes villes du monde pour proposer aux gens de monter, de mettre les tefillin, ou bien de faire d'autres mitzvot, de lire des livres, etc. Donc lui, il passe devant, il voit une photo que d'un coup il la choque parce qu'il l'a vue quelque part. Et petit à petit, il se rappelle qu'il l'a vue, il se rappelle ses spectacles. Donc il demande de voir ce monsieur. Donc finalement, c'était dans les années où le rabbi il a encore reçu des gens. Et lorsqu'il rentre chez le rabbi, le rabbi le sourit bien. Il sourit comme chacun il a trouvé le sourire du rabbi, quelque chose de magnifique, qu'il comprend chacun selon son niveau. Et le rabbi l'a dit, alors il faut commencer à respecter la Torah, mais puisque c'est difficile de tout commencer, alors je vous propose une mitzvah facile. C'était la veille de Sukkot, donc la période de Sukkot, il lui propose de faire cette mitzvah de Lulav, en fait c'est une des devoirs de la fête de Sukkot. Donc, d'une part, un exemple de quelqu'un qui se trouve très haut, il comprend l'importance de chaque mitzvah, de chaque devoir, et finalement il a obtenu que ce monsieur il va tout faire, mais d'une autre part, on comprend le niveau de la personne, on demande chacun selon son niveau. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, comment un grand, comme le rabbi, il est très très grand, mais en même temps, il comprend les petits. Et non seulement qu'il comprend les petits, il vit, parce que ça, on a vu dans toute l'idéologie des rabbis, comme on a dit tout à l'heure, on est dans un monde où à chacun, Dieu, il donne des capacités, et chacun doit réagir selon sa capacité. Ici, il fait selon sa capacité, il fait parfois mieux que quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup plus de choses, mais il ne fait pas selon sa capacité. Et si dans les générations d'avant aussi, il y avait il y avait quelque part, le monde des Juifs habitait dans des ghettos, donc en tout cas dans une grande partie du monde, parce que bien il y avait une grande écart entre le monde juif et le reste, et c'était difficile de cohabiter. Le rabbi a insisté. D'ailleurs, on a considéré à l'époque que la France, quelque part, le judaïsme, il ne tient pas très bien en France, sauf des rares cas, parce que quand on est assimilé, donc aux idées du monde, on n'arrive pas à garder le judaïsme. Mais les nouveautés de notre génération, justement, que le rabbi l'a développé partout, et surtout en France, c'est que d'une part, on peut être un bon juif avec tous les détails, mais être un homme de la cité qui vit bien, un bon citoyen d'une part, et quelqu'un qui vit ce judaïsme d'une autre part, et non seulement que ça peut arriver, ça doit arriver, et c'est le but de notre génération, c'est qu'on n'a pas arrivé à faire beaucoup de générations, parce que c'était invivable, impossible, parce qu'il y avait une grande paradoxe. Dans notre génération, on arrivait à faire, c'est pas encore parfait, c'est loin d'être parfait, et on trouve des étudiants dans les années 70, parce que ce travail du rabbi a duré des années et des années, ça, il y avait des processus dans ces domaines, mais on trouve les premiers Baalei Tshuva, les gens qui retournent vers le judaïsme en France, ailleurs ça existait déjà depuis avant, mais en France par exemple, et c'était des universitaires qui trouvaient goût dans le judaïsme, que dans leur maison c'était une maison traditionnelle, mais à un moment donné en France ça n'a pas tenu très longtemps, donc leurs enfants étaient à l'université, mais ils n'ont pas tourné vers le judaïsme, ils ont plutôt été en train de tourner la page hors du judaïsme. Et là, il y avait le chassidim du rabbi qui les a amenés, qui les a approchés vers le judaïsme. Et donc, la première réaction qu'ils ont eue, c'est de quitter l'université et d'aller réfugier dans un monde plus juif. Et là, le rabbi, il a refusé, en tout cas, une grande partie d'eux, qu'ils le fassent, ils voulaient qu'ils continuent leur étude à l'université et qu'ils soient juifs à l'université. Donc, ça veut dire que, au contraire, affluencer dans l'université, c'est ça qui a fait cette révolution dans le monde juif français, comme le monde juif américain, comme le monde juif en général. En tout cas, le rabbin nous a guidés dans ce monde et dans cette génération, et que c'est quelque part ça le but de la génération, ce qu'on n'a pas arrivé à faire pendant une génération. D'une part, être un juif fidèle, mais d'une autre part, être un juif dans la cité. Et d'une autre part encore, que le judaïsme est là, elle aura de quoi dire vers les nations du monde. Et là, dans les années 80, le rabbi, il a commencé, même ce qu'il a commencé avant, mais il a commencé d'une façon beaucoup plus large, et surtout en Amérique, même si on n'est pas au top de cette idée, mais ça a influencé pas mal, cette idée de travailler sur la croyance, parce qu'on est dans un monde qui est devenu de moins en moins croyant, et il y a des pays. Et là, le rabbi, il a proposé de faire ce que s'appelle une minute de silence, une minute où les enfants ils commencent leur journée par une minute de silence, mais qu'ils pensent à ce que leurs parents disent, qu'ils pensent à Dieu. Ils ne voulaient pas qu'on dise aux enfants ce qu'il faut dire et ce qu'il faut penser, parce qu'à ce moment-là, ça rentre dans le conflit, qui je suis, est-ce que je suis juif ou chrétien ou d'autres, à ce moment-là, bien, il y aura des différences, et ça ne va pas marcher. Mais c'est pour ça qu'il a proposé cette idée d'une minute de silence où on pense à Dieu au début de la journée. Et c'est un projet qui a beaucoup marché, parce que, pas totalement, mais dans beaucoup des écoles, et beaucoup disent que grâce à ça, et ils savent le fait même qu'on sait qu'il y a un Dieu dans le monde. Alors après, la journée est différente. Avant de faire quelque chose, on pense à ce que je fais ou je ne fais pas. Je veux quelqu'un qui veut voler ou bien faire d'autres quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il pense parce qu'il sait que le monde est dirigé, est créé, est dirigé par Dieu. Et chaque chose qu'il fait, donc on n'est pas dans un jungle. Chaque chose qu'on fait est regardée et vue. Et cette notion de la foi qui marchait plutôt mieux en Amérique a beaucoup changé l'esprit des gens. Et aussi, comme on a dit tout à l'heure, donc, cette notion de la paix dans le monde. Alors, il y avait une période où le monde juif était quelque part à part, c'était plus fort qu'eux, mais les autres étaient à part parce que... Pour de différentes raisons, mais la cohabitation était très très difficile, comme tous les moments de ces derniers 2000 ans. Mais dans notre génération, le rabbi insistait beaucoup à cette notion, comme on a dit, de cohabitation d'une part, et de la paix. De la paix, ça veut dire qu'il faut savoir respecter les autres. On est dans un monde où Dieu il a créé. Il attend que les gens se respectent. Il a beaucoup développé cette idée. Et ce n'est pas important qui nous sommes, de quelle communauté nous sommes, de quelle, si on peut dire, religion nous sommes. Ça veut dire la base de tout. Dieu, il a créé un monde. Il faut respecter ce monde. Et donc là, le rabbi aussi, il a développé cette idée de parler dans la notion de sept mitzvot noachiques. Ça veut dire que toutes les nations du monde, ils ont les sept lois et qu'ils doivent respecter. Ces lois sont des lois que, tout d'abord, il faut croire en Dieu, ça c'est la base, mais à partir de là, il faut respecter le monde, il faut respecter les autrui, et ça c'est des choses qui n'étaient pas toujours le cas. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais ça c'est un esprit qui a changé beaucoup le monde, dans le monde américain pas mal, parce qu'ils sont assez croyants, mais dans d'autres domaines, on trouve que dans plusieurs pays et dans plusieurs esprits, ça rentrait et ça rentre un petit peu de plus en plus, même si aujourd'hui on est dans un monde d'un coup qui a fait un petit retour vers les moments instables. Mais selon l'esprit du rabbi aussi, chaque fois, d'une part, il faut que chacun renforce et il fasse tout, que le monde il trouve la paix. Même si que parfois on n'a pas le choix, il y a la guerre qui est imposée, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est trouver la paix dans le monde. Alors, même au moment où on recule, pour une raison ou pour une autre, mais c'est le cas de ces dernières années, il faut tout d'abord chercher à retrouver cette paix. Il faut savoir que puisque chaque fois on avance, même quand on recule, c'est pour avancer encore plus. Alors même si qu'aujourd'hui on ne trouve pas une solution pour une paix durable, il faut le chercher, mais il faut savoir que le monde avance. Même lorsqu'il recule, c'est un moment de recul pour avancer. Donc, dans tout cet esprit, que c'est une petite, anecdote, ou bien des petites anecdotes, ou bien échantillons de la vie du Rabbi, c'est qu'il a mis dans notre génération beaucoup pour le judaïsme, pour le monde entier, pour la vision du monde, parce qu'on sait que la vision, c'est ce qui change le monde. Quand on a une autre vision, c'est ce qui change le monde. Il y a beaucoup d'écrivains qui étaient très influencés par lui, et donc, de leur côté, de leur retour, ils ont influencé ensuite le monde, comme ils visaient le d'autres. Donc, alors, si on termine, surtout avec cet esprit du Rabbi, et qu'on est dans une génération de Mashiach. Une génération de Mashiach, ça va dire beaucoup de choses, mais ça va aussi dire qu'une génération où, finalement, après que Dieu il a créé un monde qui n'est pas stable, qui a beaucoup de déséquilibres, et finalement, il y aura cette période messianique où on va avoir un ordre dans ce monde, et donc, bien sûr, qu'on va voir la paix dans ce monde, mais tout ça, ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça, ça arrive après des efforts. Donc, on est dans une période difficile, mais une période qui espère la paix, qui espère cette période messianique qui avance. Chacun doit faire son idée pour aider les autres, pour s'ouvrir vers les autres. Pas facile, mais c'est le but de notre génération, ce qu'on ne nous a pas demandé trop à l'époque. Chacun il doit faire en sorte de trouver Dieu dans sa vie, parce qu'aujourd'hui, on peut voir beaucoup plus la présence de Dieu dans notre vie. Et moi, personnellement, je le vois beaucoup. Il est marqué que la génération, notre génération, donc la génération avant ma chair, c'est comme la génération de la manne, que dans la génération de la manne, donc cette nourriture du ciel que les Juifs ont reçue pendant 40 années dans le désert, que c'était quelque chose de non naturel, mais c'était une période non naturelle. Alors aujourd'hui aussi, il y a des périodes où on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. Et de même que dans le désert, chaque jour, ils ont reçu les choses qu'on devrait recevoir pour aujourd'hui, sans savoir ce qui va se passer demain, mais ils ont fait confiance. Là, aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude. Et chaque jour, quelque part, il amène ses problèmes. Et en même temps, il faut renforcer la foi. À ce moment-là, quand on renforce la foi, on le voit. Comme chacun, comme moi personnellement, je vois beaucoup de choses intéressantes, beaucoup comment Dieu il intervient dans mes affaires, dans notre affaire communautaire. Donc, alors, on est dans une génération qu'il va donner fin à tous ces problèmes, il va amener le monde à sa stabilité, à la paix, et ce qu'on appelle aussi cette période de Mashiach, que Mashiach c'est une période, c'est une personne, mais aussi c'est une période, c'est une situation de stabilité, de bien, de joie, de foi. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.